Et c'est l'heure du journal de la rédaction et c'est l'heure d'accueillir Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Les groupes de niveau en français et en maths verront bien le jour dans les collèges à la rentrée de septembre.
Oui, Gabriel Attal l'a confirmé hier soir, en dépit donc de la forte mobilisation des profs, mais aussi du recul pourtant amorcé la semaine dernière par sa ministre de l'Éducation pour tenir compte justement du rejet exprimé, on le verra, par une grande partie aujourd'hui du corps enseignant, comme d'ailleurs des parents d'élèves. Haro sur la mode éphémère, quand les députés s'apprêtent aujourd'hui à sévir contre la fast fashion, comprenez la vente de ces vêtements à prix cassé, le plus souvent importés. Avec notre invité aujourd'hui, le professeur de sciences politiques Guillaume Marel, on parlera des effets de la loi sur le non-cumul des mandats et le retour, en l'occurrence, de cette question dans le débat public. L'actualité également à l'étranger, nous nous rendons tout d'abord aux Pays-Bas, où près de 4 mois après la large victoire électorale de l'extrême droite, l'islamophobe Geert Wilders renonce à former lui-même un gouvernement. Enfin, la Chine dénonce ce matin des méthodes de voyous après un vote au Congrès américain hier qui renforce la menace d'interdiction aux États-Unis de l'application chinoise TikTok au nom de la sécurité nationale. Les groupes de niveau en français et en maths seront la règle et les classes entières l'exception. Hier soir et avant la publication demain des textes officiels, le Premier ministre Gabriel Attal n'aura donc pas laissé le moindre doute possible sur la stricte application de sa réforme dite du choc des savoirs, une manière aussi de replacer au coin et au fond de la classe sa ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, laquelle avait osé indiquer il y a tout juste une semaine vouloir lâcher du lest sur cette mesure en avançant même plusieurs pistes pour assouplir ce dispositif que les syndicats jugent contraire à l'intérêt des enfants et générateur d'un tri social. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
À tous ceux qui ne l'auraient pas compris, le chef du gouvernement vient donc de signifier qu'il n'avait pas égaré sa blouse d'ex-ministre de l'Éducation et qu'il compte bien la porter même jusqu'au bout.
Oui, pendant son passage rapide à l'Éducation nationale, 6 mois, Gabriel Attal a imprimé sa marque, une marque de fermeté. Interdiction de l'abaya à l'école, lutte contre le harcèlement scolaire, expérimentation de l'uniforme et donc ce projet de groupe de niveau en français et mathématiques. En arrivant à Matignon, Gabriel Attal avait prévenu « J'emmène avec moi la cause de l'école ». Sauf que depuis, il y a eu ce passage éclair et très agité d'Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation, puis la nomination de Nicole Belloubet à la tête du ministère pour apaiser le mammouth. Un choix imposé à Gabriel Attal par Emmanuel Macron. Et le problème, c'est qu'une partie du milieu éducatif est hostile à ces groupes de niveau. L'apaisement passe donc par les mots. Nicole Belloubet parle désormais de groupes de besoins et promet de la souplesse dans leur mise en place. Et hier, le Premier ministre a repris la main sur le sujet. Il y aura bien 3 groupes selon le niveau de difficulté des élèves. Ces groupes seront la règle sur les 3/4 de l'année au moins, et la classe entière l'exception. Alors y a-t-il dissonance au sein du gouvernement ? Le déplacement de cet après-midi à Chartres de Nicole Belloubet et Gabriel Attal sont censés démontrer le contraire. Tous deux vont participer à une visioconférence face à l'ensemble des chefs d'établissement. Il y a en fait 2 manières de voir les choses. Soit on assiste à un bras de fer entre 2 conceptions de l'éducation nationale, soit il s'agit d'une subtile répartition des tâches entre le Premier ministre qui fixe la ligne et la ministre de l'Éducation qui renoue le lien avec les syndicats pour que cette ligne puisse être appliquée.
Merci Antoine Maret. Alors cette réforme voulue par Gabriel Attal est censée élever le niveau général à l'école, n'a pas manqué, on l'a dit, de prendre en grippe les syndicats comme les enseignants. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Voilà plusieurs jours maintenant que le personnel de l'éducation se mobilise dans les établissements pour lutter contre cette future évolution. Et les professeurs ont même choisi cette fois-ci, Hakim, de faire appel directement aux parents avec des opérations collège mort.
Oui, des opérations collège mort, organisées conjointement avec la FCPE pour dénoncer les conséquences que pourraient avoir les groupes de niveau en stigmatisant notamment les élèves les plus faibles, selon Grégoire Ancel, le président de la FCPE.
Nous sommes contre les groupes de niveau qui enferment les élèves dans des niveaux dont ils ne parviendront pas à sortir, parce qu'on sait très bien que en triant les élèves et en mettant les plus faibles ensemble, ça ne fait pas progresser. Et ça, les travaux scientifiques sont très clairs, alors que des groupes de besoins permettent à des élèves de se regrouper ponctuellement pendant 1 semaine, 15 jours, 1 mois pour approfondir des notions précises, parce qu'on peut être très bon en algèbre et mauvais en géométrie.
Alors même si Gabriel Attal s'est voulu rassurant, en indiquant que 2300 postes seront redéployés pour la mise en place de cette réforme, elle risque également de se faire au détriment de certaines matières, mais aussi de certains dispositifs pédagogiques mis en place localement dans certains établissements, comme nous l'explique Benjamin Marolle, professeur d'histoire-géographie au collège Onkelsum de Montreuil en Seine-Saint-Denis.
On a une petite enveloppe de 3 heures par classe qu'on peut utiliser en autonomie à mettre en œuvre en fait des dispositifs particuliers, notamment effectivement l'enseignement des langues anciennes. Dans de nombreux établissements, avec l'institution justement des classes de niveau, on va voir disparaître évidemment ces enseignements. Donc c'est une mise en cause d'un certain nombre de matières, en particulier effectivement les langues anciennes.
Après Paris et le 93, le mouvement de la FCPE commence désormais à s'étendre en région, notamment à Bordeaux.
Merci Hakim Kasmi.
4 étudiants sur 10 présentaient des symptômes dépressifs l'an dernier.
C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce matin, soit 4 ans, jour pour jour, après le confinement général pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Alors au-delà des effets de la crise sanitaire et pour expliquer leurs angoisses, les étudiants interrogés évoquent des difficultés économiques, des études de plus en plus sélectives, mais aussi le chômage. Et puis presque tous citent le contexte géopolitique avec les conflits internationaux, sans oublier le dérèglement climatique qui rend leur futur toujours plus incertain. France Travail, ex-Pôle emploi, a révélé hier soir avoir été la cible de pirates informatiques avec un risque possible de divulgation de données personnelles touchant potentiellement 43 millions de personnes. A priori, cette cyberattaque n'aurait aucun lien avec celle d'une intensité inédite qui dimanche dernier a visé plusieurs services ministériels.
Débat clivant en vue aujourd'hui à l'Assemblée.
Oui, ou quand la remise en cause du cumul des mandats divise la majorité. À l'occasion de la journée parlementaire qu'il aurait réservée, les députés du groupe Horizon, le parti de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, ont décidé de remettre sur le tapis l'interdiction du cumul des mandats inscrite dans une loi datant de 2014, adoptée sous François Hollande et appliquée depuis 2017. Alors rappelons le principe, cette loi interdit aujourd'hui à un parlementaire national, député ou sénateur, d'exercer par ailleurs un mandat exécutif local, et pour Horizon, qui cultive justement son ancrage local, ce texte est un marqueur. En revanche, il divise au sein du groupe Allier Renaissance nombre de députés macronistes, estimant que revenir sur cette règle serait non seulement synonyme de retour des baronnies, mais aussi des missions mal effectuées, faute de temps. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Guillaume Marel, professeur de sciences politiques à l'Université d'Avignon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors rappelons que cette loi sur le non-cumul était l'aboutissement d'une revendication portée de longue date à gauche. En quoi, tout d'abord, a-t-elle marqué une rupture importante dans la pratique du pouvoir? Et diriez-vous ensuite que les objectifs initialement visés par cette règle ont été globalement atteints?
Alors c'était une loi portée à gauche en 2014, à la suite de la loi de 1985, de la loi de 2000 qui avait été également votée par des majorités socialistes. L'initiative de la remise en cause du cumul des mandats, elle revient au groupe Jean Moulin dans les années 1970, donc plutôt au centre de l'échiquier politique. Ce qui se passe en 2014, c'est une rupture politique parce que c'est la disparition du cumul vertical le plus problématique entre les parlementaires et les membres des exécutifs locaux, les maires, les adjoints, les vice-présidents et les présidents des assemblées départementales et régionales. Et donc, c'est la séparation entre les fonctions législatives nationales et les fonctions exécutives locales.
Je le rappelais, cette loi a donc été votée en 2014, mais elle n'est entrée en application en réalité qu'à l'occasion des législatives de 2017, c'est-à-dire au même moment où les clivages du paysage politique se trouvaient totalement bouleversés par l'émergence de la figure d'Emmanuel Macron. Est-ce que dans un moment de si large reconfiguration, il est possible d'observer spécifiquement quels ont été les effets de cette loi ?
Bah précisément non, hein, vous l'avez bien dit. La mise en œuvre reportée de quelques années en 2014 pour faciliter son adoption à l'Assemblée et au Sénat en 2017 a correspondu avec la victoire d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et donc au plus important renouvellement de l'Assemblée nationale de l'histoire de la République, hein, 72% de renouvellement. Qui s'est suivi en 2022 par un nouveau record, hein, 52% de renouvellement. Donc en fait, pour la science politique, là c'est très compliqué d'analyser les effets propres de la loi de 2014 appliquée en 2017 sur la recomposition du personnel politique et en particulier sur l'un des arguments de la proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée, qui correspond à l'idée qu'on aurait perdu le député de terrain, qu'il y aurait une déconnexion en fait des députés entre leur terrain local, enfin les enjeux locaux et le travail législatif national.
Effectivement, les partisans hein, du cumul des mandats font valoir que cela permet aux représentants nationaux de mieux connaître les enjeux locaux, mieux assurer leur ancrage territorial et donc de corriger une certaine déconnexion aussi entre les citoyens et leurs représentants nationaux. Est-ce que cet argument vous semble justifié ?
De mon point de vue, il l'est pas vraiment. D'abord, enfin, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que aujourd'hui, enfin, mes derniers chiffres datent de 2023, mais en 2023, on a encore 55% des députés et 61% des sénateurs qui sont des élus locaux. Hein, donc, qui ont un mandat municipal ou départemental ou régional, voire deux de ces mandats et parfois un mandat intercommunal. Un tiers cumule donc même deux mandats locaux. Donc il n'y a pas vraiment de coupure entre l'espace parlementaire et la vie politique nationale. Ensuite, s'il y a eu un éloignement, il provient, je pense, davantage des logiques du recrutement social et politique, pourrait-on dire, de La République En Marche, enfin des majorités parlementaires de 2017 et 2022, davantage que de cette loi de limitation du cumul vertical. Et davantage aussi du fait que peut-être un grand nombre de députés ont moins d'expérience politique locale aujourd'hui qu'ils ne l'avaient auparavant. La loi qui limite le cumul vertical n'interdit absolument pas à un maire ou à un conseiller départemental, un président de conseil départemental ou régional, de se présenter à la députation et de profiter de son expérience locale pour légiférer et donc faire preuve d'une lucidité, d'une bienveillance ou d'une meilleure compréhension des enjeux locaux et des modes ou des manières dont les lois doivent être appliquées localement.
En réalité, le texte qui sera donc discuté aujourd'hui ne propose pas de revenir purement simplement à la situation d'avant 2017. En clair, il sera toujours impossible pour un parlementaire de cumuler une fonction de maire. En revanche, il pourrait désormais être adjoint ou vice-président d'un département ou d'une région. Est-ce que ce compromis permettrait, selon vous, d'éviter les situations de trop grande concentration du pouvoir ?
Alors, peut-être. Mais cette proposition est particulièrement étonnante parce qu'en fait, comme vous le dites, c'est une sorte de compromis hein, entre un retour pur et simple au cumul vertical exécutif local fonction parlementaire et puis cette idée qu'on autoriserait les parlementaires à ne cumuler que des fonctions d'adjoint ou de vice-président. Ça peut en effet limiter l'effet de concentration du pouvoir. Les fonctions d'adjoint ou de vice-président sont peut-être moins chronophages que celles de maire ou de président d'exécutif local. Mais, me semble-t-il, ça produit un risque d'effet pervers dans cette mesure. C'est que on va mettre en face du maire ou du président de l'Assemblée locale un parlementaire adjoint ou vice-président qui aura une certaine autorité et qui pourra peut-être aussi déstabiliser la tête de l'exécutif municipal, départemental ou régional.
On a bien compris votre scepticisme. Donc merci Guillaume Marel, professeur de sciences politiques à l'Université d'Avignon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Et puis autre proposition de loi, toujours à l'occasion de cette journée parlementaire réservée au groupe Horizon, les députés devront également donc se pencher aujourd'hui sur des mesures visant à freiner la fast fashion.
Oui, la mode éphémère en bon français, comprenez celle imaginée par ces géants de l'habillement qui, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, inondent aujourd'hui le marché de leurs vêtements à très bas prix. L'objectif consiste à mettre en place un malus afin de limiter l'écart de prix avec les autres entreprises du secteur plus vertueuses, et ce à travers notamment un angle environnemental, puisque l'industrie textile est actuellement la plus polluante avec 10% des émissions de gaz à effet de serre. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Au-delà de son impact écologique, ce modèle d'industrie interroge aussi notre modèle de consommation et notamment celui d'une clientèle, en particulier la jeunesse, partagée entre l'envie d'être à la mode mais avec des moyens limités.
Oui, la recette de ces entreprises, c'est de leur proposer des centaines de nouvelles collections par semaine, parfois même par jour. Le site Shein propose quotidiennement 7000 nouvelles références. Des vêtements vendus en masse pour quelques euros. En moyenne, un Français achète 9,5 kg de textiles et chaussures chaque année. Alors le fonctionnement des consommateurs de cette mode instantanée, c'est de changer à toute vitesse, acheter, porter, abandonner, c'est-à-dire jeter ou tenter de revendre, autant de comportements consolidés par l'idée qu'il s'agit là d'une démocratisation de la mode ainsi rendue accessible au plus grand nombre. L'argument porte d'autant plus qu'il est défendu par de puissantes entreprises qui ont fondé leur rentabilité sur la production de volume, rappelle la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au CNRS.
Ce sont des arguments, en fait, qui viennent à l'appui de modèles économiques dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont dévastateurs pour l'environnement. Cette idée de la démocratisation ou de l'accessibilité sociale de la consommation, il renvoie à quelque chose qui est très bien connu dans les travaux en sciences sociales depuis plus de 100 ans, qui consiste à dire que consommer fait partie des moyens par lesquels les individus peuvent vérifier qu'ils appartiennent à la société. Et donc, ces arguments, ils ont été utilisés par le low cost, ils sont utilisés aujourd'hui par la fast fashion. Mais quand on fait ça, finalement, on n'interroge pas du tout le modèle fondamental qui est à la base de tout ça, qui est autour de cette idée que tout le monde doit finalement participer à ces formes de consommation et de production. Et c'est ça qu'il faut interroger.
Et puis l'autre conséquence de ce modèle de production à bas coût et donc délocalisé, c'est qu'il a entraîné une importante perte d'industrie en France et donc d'emplois, d'impôts, autant de richesses en moins pour tous les Français, y compris pour acheter des vêtements.
Merci Catherine Pétillon. S'agissant de mode, toujours mes côtés luxe, cette fois-ci Emmanuel Macron a remis hier soir la Grand Croix de la Légion d'honneur au PDG de LVMH, Bernard Arnault, 75 ans, l'homme le plus riche du monde, le tout en présence d'autres milliardaires comme lui, parmi lesquels Vincent Bolloré et Elon Musk.
Vous écoutez France Culture, il est 12h46 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Geert Wilders, lequel avait, on s'en souvient, stupéfié son pays comme le reste de l'Europe en obtenant une large victoire aux dernières législatives, ne sera finalement pas le prochain Premier ministre des Pays-Bas, faute de soutien suffisant pour former une coalition. Le dirigeant d'extrême droite islamophobe a décidé hier de jeter l'éponge. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
En l'occurrence, plusieurs médias évoquent déjà, Pierre, des négociations pouvant mener à la constitution d'un gouvernement de technocrates.
Oui, parce que Geert Wilders tire la conclusion de près de 4 mois de négociations désormais enlisées. Je n'aurais pu devenir Premier ministre qu'avec le soutien de tous les partis de la coalition. C'est donc pas le cas. Il y avait déjà eu un premier revers il y a un mois lorsqu'un des partis s'était retiré de la négociation. Le NSC, le nouveau contrat social de Peter Omtzigt, arrivé en deuxième place aux législatives. Il avait mis fin à des discussions compliquées et trop peu confidentielles à son goût. En toile de fond, ce programme très islamophobe de Geert Wilders n'a rien facilité. Résultat, je cite, « Mon amour pour les Pays-Bas passe avant ma personne », c'est ce qu'il affirme désormais. Le chef de file du PVV, le Parti pour la Liberté, renonce donc à son ambition de devenir Premier ministre. Mais Geert Wilders croit cependant toujours possible de former un gouvernement de droite, avec aussi le BBB, le mouvement agriculteur citoyen et les libéraux du VVD. Il y aurait en conséquence ce gouvernement de technocrates qui n'appartiendrait à aucun des 4 partis de la coalition, qui aurait donc en permanence des comptes à rendre au Parlement. Parmi les noms qui circulent pour le poste de Premier ministre figurent ceux de Ronald Plasterk et Kim Putters, les deux travaillistes qui se sont succédés pour tenter, depuis fin novembre, de faciliter la construction d'une coalition.
Merci Pierre Benazet. Après des mois de rebondissements et dans un climat exécrable entre le gouvernement de gauche et l'opposition de droite, les députés espagnols sont appelés à voter aujourd'hui une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans, un texte controversé au point qu'il divise le pays tout entier jusque dans l'électorat socialiste, un vote par ailleurs déterminant puisqu'il doit conditionner le reste de la législature.
En Haïti, bien des questions se posent encore après la démission du Premier ministre Ariel Henry.
Et pour cause, ce départ sous la pression des bandes criminelles est d'abord emblématique d'un État à l'abandon, de sorte que le mince espoir d'une transition crédible dépend désormais de la capacité du pays à surmonter ses divisions. Partis politiques et représentants de la société civile tentent toujours de s'accorder sur la composition d'un futur conseil présidentiel, preuve par ailleurs que la situation sécuritaire reste encore très largement volatile. L'ONU, mais aussi de nombreuses ambassades occidentales, ont annoncé hier retirer leur personnel dit non essentiel. En revanche, pour permettre la fluidité de l'aide humanitaire, un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine voisine devrait être mis en place. La menace d'une interdiction de TikTok se précise aux États-Unis hier dans un rare élan bipartisan. La Chambre des représentants a adopté une proposition de loi qui demande au réseau de couper les liens avec la Chine, accusée de violer la sécurité nationale. Concrètement, le projet obligerait la maison mère de la plateforme à vendre son activité aux États-Unis sous peine d'une interdiction pure et simple sur le territoire américain. Le texte reste toutefois suspendu au vote encore incertain du Sénat. Quoi qu'il en soit, dès ce matin, Valérie Crovat, la Chine n'a pas tardé à réagir.
des méthodes de voyous, un texte qui va à l'encontre du principe de concurrence loyale et des règles du commerce international. C'est par la voix d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères que Pékin a fustigé le vote cette nuit au Congrès de ce texte de loi. Adopté à une large majorité, il insiste sur les rapports qu'entretient le Parti communiste chinois avec le réseau social, des liens qui mettraient en péril la sécurité nationale, selon le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. Depuis plusieurs mois, TikTok est dans le viseur des autorités américaines qui soupçonnent Pékin de s'en servir à des fins d'espionnage. Il n'existe aucune preuve de transmission d'informations aux autorités, se défend le PDG du groupe chinois, qui a invité les 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis à réagir sur la plateforme. La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses entreprises, a renchéri le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Cet après-midi lumineux sur la majeure partie du pays, mais voilé et pluvieux sur la Bretagne. Quant aux températures particulièrement douces, elles seront comprises entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.